Onde Noire, deuxième partie. Donc Corinne, tu vas nous parler d'un polar de la rentrée. Donc.
Voilà, un livre de la rentrée, un livre d'un nouvel auteur, d'un nouvel écrivain qu'on découvre. C'est son premier roman traduit. Elle s'appelle Jax Miller. Le roman s'appelle Les Infâmes. C'est paru début septembre chez Ombre Noire et c'est traduit par Claire-Marie Clévy. Et je commencerai par une citation. Il a plu tous les jours où je suis née. Ça, c'est comme ça que se présente Freedom, qui est le personnage principal de ce roman. Elle travaille dans un bar au fin fond des États-Unis, dans l'Oregon. Elle est alcoolique, elle remplit sa, comme elle appelle, sa tirelire à suicide avec les médocs qu'elle ne prend pas. En gros, pour les jours où elle ne se supportera plus, ni elle, ni sa vie, ni son passé. Et c'est quand même une chose très étrange pour cette femme, dont on va découvrir, cette femme qui est prisonnière d'un passé terrible, donc qu'on va encore une fois découvrir petit à petit tout au long du roman, que d'avoir choisi, puisque c'est un témoin protégé du FBI, donc elle a changé de nom, et elle a choisi ce prénom, Freedom, Liberté. En gros, on va découvrir qu'elle fut mariée trop jeune, humiliée, violée, emprisonnée. Sa seule lumière, en gros, c'est le souvenir de ses deux jeunes enfants qu'elle a dû abandonner après son arrestation, qu'on lui a fait abandonner. Alors, quand la plus jeune, Rebecca, disparaît, elle va se précipiter, on va dire, avec une espèce de rage du désespoir et une énergie de survivante. Et elle va donc traverser une partie, enfin, elle va faire une espèce de, pas road novel, mais elle va partir au milieu des États-Unis. Dans ce roman, très habilement, les suspens sont complètement déportés. Parce que Freedom, elle va le confesser, elle va lui dire dès la première page. Elle a à la fois donné, puis enlevé la vie à sa fille. Donc on sait que sa fille, elle va la retrouver morte. Mais l'auteur, Jax Miller, va tisser un récit aux éclairages multiples. Et ça va permettre de dévoiler petit à petit, comme je l'ai dit, le passé de cette mère courage, son périple donc à travers les États-Unis, mais aussi des monstres. En gros, l'ex-belle-famille de Freedom, la mère, les fils, alors eux totalement dénaturés, complètement dépravés. On pourrait presque dire la même chose des parents adoptifs de Rebecca et de son frère, qui n'ont vraiment rien à leur envier dans une espèce de folie mystique qui les anime, surtout le père. Folie qui se lie, ça c'est classique aux États-Unis, à l'appât du gain. Enfin, pas qu'aux États-Unis. Il y a aussi quelques flics corrompus jusqu'à la moelle. Et puis, il y a quelques rares personnages qui illuminent, mais carrément qui illuminent ce très beau roman. Il y a le flic Matley, il y a une pute copine de Freedom qui va l'aider, qui va beaucoup l'aider. Et puis aussi un nom, Passion. Tous ces gens, ils aiment et ils protègent, ils essaient de protéger Freedom contre les autres et contre elle-même. Et puis, il y a quelques figures fugaces, comme la vieille voisine, c'est complètement sénile, Mimi. Et puis, un vieux chaman, Shushon, je ne sais pas comment on dit, on va dire un vieux chaman indien, son fils, que Freedom va simplement croiser lors de son périple. Et il faut dire que ces personnages, c'est quand même une lumière très bienvenue. Je ne parle pas très bien français, une lumière intéressante, un point de vue intéressant dans ce récit très noir, très glauque, où en gros la plupart sont des misérables. Jax Miller le dit, il y a deux sortes d'individus dans le monde. Il y a des gens ordinaires et des monstres bien trop ordinaires. Et des monstres, vous en croiserez beaucoup dans ce roman. Mais on évite quand même, et ça c'est une force du roman, on évite pathos et misérabilisme. Et en gros, vous allez naviguer de chapitre en chapitre entre... Il faut dire qu'il y a énormément de musique. Donc on va naviguer entre le blues entêtant et mélancolique, de Screaming Jay Hawkins. Là encore, je dois écorcher le nom. On va aussi aller dans des sons déchirants de guitare, en gros à la Jimi Hendrix. Et puis le boogie complètement saturé de ZZ Top. Toutes ces musiques vont résonner à la fois dans les cerveaux souvent cramé des personnages de Jax Miller, mais aussi dans son style. Il y a vraiment une musicalité dans ses phrases et dans ses chapitres très courts. Et Jax Miller, franchement, elle nous happe complètement dans cette histoire et c'est vraiment un très, très beau premier roman. On attend impatiemment, soit que l'on écrive d'autres, soit que d'autres soient traduits. Donc, pour avoir d'autres traductions, il faut vraiment que vous alliez acheter ce livre dans votre libraire préféré, chez votre libraire préféré. Je rappelle, ça s'appelle Les Infâmes, Jax Miller, et c'est paru chez Ombre Noire, chez Flammarion. Bon, un petit peu de musique, Jacques.
Un petit peu de musique, et ben ça sera ni Screamy Jay Hawkins, ni Jimi Hendrix, qu'on a déjà entendu dans d'autres génériques, ni ZZ Top, mais une chanteuse de jazz, une vraie chanteuse de jazz, pas celle qui font un peu de la pop en même temps. Elle s'appelle Cécile McLaurin Salvant, et on va écouter un extrait de son dernier album, qui est sorti tout à fait récemment. L'album s'appelle For the One to Love, et le morceau que nous allons écouter s'appelle What's the Matter Now, et elle est toujours accompagnée de l'excellent trio de Aaron Dill.
Treetop tall. Hear your loving mama call. You ain't doing too good. You ain't treating me like you should. Papa, papa, hear my plea. Stop mistreating. Did you break that thing? What's the matter now? We can't get along somehow. I ain't had no loving in a long, 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 long time. Tell me what's the matter now. Daddy, tell me what's the matter now.
Donc un extrait de, je connais le prénom, Cécilia, mais je ne sais
de
plus
Cécile
le...
Cécile McLaurin Salvant, elle chantait « Qu'est-ce qui importe maintenant ?» Ben, ce qui importe maintenant, c'est que nous retrouvions Jean-Marc Lahérère.
Oh là là, on fait des progrès d'année en année. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir.
Comment allez-vous ?
Oh, un peu la crève, mais ça ira. Je vais essayer de tenir le temps de la chronique.
Ben, j'espère bien. Donc, un écrivain anglais, Martin Waits.
Exactement. Un écrivain anglais, Martin Waits, publié chez Rivage. Donc, on l'avait découvert avec un roman déjà paru qui s'appelait Né sous les coups.
Très noir.
Déjà très noir et très bon. Et il revient avec La Chambre blanche, toujours chez Rivage, et traduit par Hubert Thézenas. Alors, si Né sous les coups nous a mené dans l'Angleterre de Maggie, là, on revient un peu plus en arrière, puisque le roman démarre en 1946... donc juste après la fin de la guerre. Nous sommes à Newcastle dans le nord de l'Angleterre et on suit un jeune homme, Jack Smeaton, qui est revenu avec les cheveux tout blancs parce que il a participé à la libération de Caen, entre autres pendant la guerre. Il est de retour au pays et il se retrouve, il n'y a aucun espoir pour lui. Comme lui dit quelqu'un, on peut dire qu'on est dans un des pays qui a gagné la guerre, mais voilà, il n'y a pas de boulot. Tout ce qu'on lui propose, c'est de travailler dans un abattoir et déjà, il a suffisamment de cauchemars la nuit comme ça pour pas vouloir travailler dans un cauchemar. Et il retrouve l'espoir quand un soir, quelqu'un lui indique d'aller écouter un certain Dan Smith, qui est un leader travailliste, qui promet, qui est un tribun, un orateur convaincu et convaincant, et qui promet de refaire le monde et au moins la ville de Newcastle. Il va se laisser convaincre par ce Dan Smith et par un de ses amis, Ralph Bell, qui est un entrepreneur, mais un entrepreneur de gauche, qui est un constructeur. Et donc, Ralph Bell et Dan Smith vont éradiquer les taudis, virer tous les quartiers insalubres, faire surgir de terre une ville nouvelle et moderne dont le nord de l'Angleterre sera fier. Et Jack Smeaton, il est embauché chez Ralph Bell pour faire vivre ce beau rêve. Malheureusement, on le sait, et voilà, parce que d'abord c'est un roman noir, et puis bon, on sait bien que le pouvoir, même idéaliste à ses débuts, et la construction en général, ça entraîne la corruption. Et surtout quand dans les parages, il y a des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens brisés dans ce Newcastle, dont un certain Brian Monet qui est déjà fracassé depuis tout gamin, qui est tordu, qui est le monde entier, qui est très intelligent et qui est prêt à tout pour se venger de tout et de tous, prêt à toutes les saloperies possibles. Puis on va suivre ces personnages-là, ces quatre personnages avec ceux qui vont autour d'eux, leurs femmes, leurs enfants, pendant 20 à 30 ans. Et on va voir comment, tous les rêves et toutes les illusions, ou presque tous les rêves et presque toutes les illusions, vont être détruits et piétinés pendant ces 20 à 30 ans. Voilà, c'est pas gay, hein.
Non, c'est sûr, mais bon, c'est un roman social.
C'est un roman social, c'est une immense gifle, parce que là on a vraiment 30 ans d'une ville du nord de l'Angleterre. On a surtout cette vision de comment ces barres d'immeubles qui maintenant sont le symbole des ghettos, des taudis, à une époque ont pu être présentés comme un immense espoir et un très grand progrès. On voit comment ce progrès, cet espoir, petit à petit, croule, comment il disparaît. Et on a 30 ans de cette ville, 30 ans d'espoir déçu, d'illusions un peu fracassées, de trahison de valeurs, de trahison de beaucoup de choses. Mais aussi, on va suivre au fur et à mesure d'autres espoirs qui renaissent, des révoltes, l'arrivée, bien sûr, quand on suit l'Angleterre entre les années 40 et le milieu des années 70, forcément la musique.
Donc,
il va y avoir beaucoup de choses autour des révolutions qui au moins sont musicales et culturelles. C'est tout ça qui va être décrit au travers de ces destins, avec la grande force de Martin Waits comme dans le roman précédent, c'est qu'il ne démontre rien, il n'a pas de thèse, il n'a pas de choses comme ça. Non, il décrit des histoires d'hommes et de femmes, de gamins, de gamines, de gens qui sont brisés, de gens qui se redressent. Alors en général, ces personnages, ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent. Bon, jusqu'à la dernière fois, ils peuvent plus se relever. C'est des histoires très belles qui montrent, entre autres, que contrairement à ce qu'on a pu nous dire ailleurs, la souffrance ne rend pas meilleure, elle rend méchant, méfiant, et que la victime tend très vite à devenir bourreau quand elle en a la possibilité. Beaucoup de ces personnages sont comme ça.
Dans l'histoire, c'est assez fréquent, mais c'est vrai que dans les séries télé, c'est pas du tout comme ça.
Voilà, oui, les victimes sont des gentils qui sont très victimes et qui vont gagner parce qu'ils sont gentils. Non, là, les victimes deviennent méchantes et deviennent des bourreaux dans ces romans, malheureusement, comme dans la vie.
Comme dans la vraie vie, oui.
Voilà. Mais il y en a quand même quelques-uns qui arrivent à surnager, surtout des femmes d'ailleurs, dans ces personnages.
C'est normal.
Et voilà, les seuls personnages un peu lumineux sont des personnages de femmes. Et puis ce Jack aussi, quand même, qui va être broyé, mais qui va garder, disons, un noyau d'une certaine pureté, d'un certain idéal. Voilà, ils sont magnifiques, ces personnages, on les suit avec... ils sont magnifiques parce que l'auteur les décrit avec beaucoup de tendresse, mais beaucoup de lucidité aussi. Il ne fait pas d'illusions. Ils sont faibles, il y en a qui font très peur, il y en a qui sont attachants, et il y en a qui font peur à un moment, est-ce qu'ils sont attachants à d'autres. Voilà, c'est un grand, grand bouquin plein d'humanité, à vraiment ne pas manquer.
Sans aucun jugement, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
Non, de jugement, pas de thèse, il raconte.
Et puis le style aussi.
Et après, le lecteur est assez intelligent pour en tirer les conclusions qu'il veut bien en tirer.
Voilà, et puis en deux romans, c'est vrai qu'on a été impressionné par le style et par l'écriture de cet auteur anglais, très bien traduit d'ailleurs.
Par l'écriture, par la construction. Ses constructions de romans sont impeccables. Non, c'est un grand nom. Alors, le bouquin date de 2004 en Angleterre. On a mis du temps à le découvrir, mais peut-être qu'il y a beaucoup de pépites en attente là.
Oui, ben en tout cas, il est en train de un petit peu construire une espèce de fresque sociale de l'Angleterre des dernières années, quoi, des 50 dernières années. Donc voilà, il y a vraiment. On attend impatiemment la suite.
Oui, on attend la suite. Alors je sais pas.
Enfin, si... la suite. Peut-être pas la suite, pardon, de ce roman, mais un troisième roman en tout cas.
Un troisième roman, parce que voilà, le précédent a été publié en 2003 en Angleterre. Traduit en 2013 chez nous, celui-là c'est 2004, traduit en 2015, donc il y a peut-être déjà une dizaine de romans exceptionnels en attente. Nous prétillons.
Chic. En espérant voilà, que les traductions vont continuer et l'éditeur va suivre cet auteur. Petit message, on fait toujours. Oh, oui. Voilà, donc on va rappeler le titre et l'éditeur ainsi que le traducteur.
Voilà, alors Martin Waite c'est l'auteur, La Chambre Blanche. C'est le titre, l'éditeur c'est Rivage chez Rivage Thriller en grand format et c'est traduit de l'anglais par Hubert Tézenas.
Eh bien Jean-Marc, merci beaucoup, un bon grog ce soir, ça va aller beaucoup mieux.
Voilà, j'y vais de ce pas, merci à vous.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Oui. On va finir cette émission.
Hubert Tézenas d'ailleurs, je rappelle que le traducteur est aussi un auteur de romans noirs.
Tout à fait. Et puisqu'il me reste une minute, j'ai parlé tout à l'heure avec Patrick Péchereau des images et des tableaux. Donc, juste un petit extrait de Une plaie ouverte à la série noire. Plus haut, sur la butte, un garde national est couché. Il gardait les canons. En réponse à son « qui va là ?», il a reçu le coup de feu de la ligne. Une femme, longue et noire comme une mèche, lui caresse la tête. Il gargouille qu'il a donné l'alarme, j'ai fait la sommation. Sa voix est mouillée de sang, le garde va mourir. La femme le rassure, elle lui dit que tout va bien, qu'il est un brave petit. Près d'elle, un homme, ceint de l'écharpe tricolore. Son grand front dégarni, les pommettes hautes, quelque chose d'asiate, des moustaches de chien. Il hoche la tête, navré de cette vie qui s'en va, et du pire qu'il sent venir. Envoyer la troupe reprendre les canons, c'était l'allumette jetée sur la poudre. Voilà, pour moi c'est vraiment un tableau, j'ai l'impression d'y être. Eh bien, c'est déjà la fin de notre émission. Donc, merci beaucoup de votre attention et puis à bientôt avec un bon bouquin, chacun dans son coin.
Ou plusieurs bouquins si vous avez de la lecture à côté de vous.
Bonsoir.